Il y a une des requêtes de prière qui est projetée à Mario Catalano, donc le pasteur de Fairview Alliance, une église là où on a eu les baptêmes, une église qui est très proche de nous. Et Mario et sa femme, Laura, essayent de vendre leur maison à Laval pour déménager par ici, plus proche de leur lieu de travail. Et je leur ai dit qu'on prierait pour eux, fait que et qu'ils aient du succès dans cela. Très bien. Aujourd'hui, on visite un nouveau sujet. On a avancé dans notre parcours du livre des Actes les dimanches matins et on a dit qu'on visiterait un sujet d'actualité, le mariage et tout ce qui l'entoure. Puis en fait, la question du mariage, ça s'applique à tout le monde. Et j'espère que les quelques messages que nous aurons sur le sujet vont être utiles pour tous, les nouvellement mariés, les anciennement mariés, ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui ne sont plus mariés, ceux qui n'ont jamais été mariés. Vous savez, dans un monde où le mariage s'écroule et où les définitions de l'amour et des relations entre humains sont en train d'être réécrites, tous les membres du peuple de Dieu, mariés ou pas, peuvent participer à être des témoins de ce qu'est vraiment des relations d'amour durables et à long terme. Tous les membres du peuple de Dieu peuvent être des témoins de cela et devenir une réponse pour un monde qui a soif. On va le faire en retournant aux sources de l'amour véritable, et nous, on le sait, on le prêche à chaque dimanche, on le vit à chaque jour. C'est Dieu qui nous aime en Christ, qui a tout donné, qui a pour faire de nous son enfant, sa fille, son garçon. Et dans la mesure où on est ancré dans cet amour véritable, on bâtit des relations durables qui sont ancrées dans l'amour durable de Dieu. Alors, mes sources pour cet enseignement sur le mariage, évidemment, il y a toujours la Bible. Et si je vais trop loin de la Bible, il faut venir me parler et dire, « Marc, on est ici pour entendre la parole de Dieu. » Et parfois, souvent même, je reçois beaucoup d'aide d'autres sources qui m'aident à mieux comprendre la Bible. Alors, il y a un livre que Cheryl et moi, on est en train de lire, qui s'appelle « Le mariage » de Timothy et Cathy Keller. Un livre qui nous aide beaucoup. Et en fait, mon message de ce matin est basé sur le chapitre 4 de ce livre qui s'appelle « Le secret du mariage ». Si vous aimez ce que vous entendez ce matin, je peux vous dire comment obtenir une copie. Il y a aussi une copie qui se promène dans l'église. Ça, c'est une photo de notre livre, mais chez quelqu'un. C'est sur la table de cuisine. Peut-être que certains reconnaissent la nappe. En tout cas, c'est confidentiel. Je ne révélerai pas le nom. Mais bon, bref, et si vous êtes patient, on peut aussi vous prêter le livre qui appartient à l'église. Mais sinon... Et l'autre chose, c'est qu'il y a une série, comme moi je fais, mais à l'église Acts 21, et ça c'est à Sherbrooke, le pasteur là-bas, il a fait toute une série sur tous les chapitres du livre. Et si vous allez à ce lien-là, eh bien, vous pouvez entendre de très, très bons sermons en français sur le sujet. Donc, il y en a des ressources. Je dois aussi quand même dire que l'idée de cette mini-série vient de Christian et Gabriel, donc merci beaucoup. Et puis, si vous n'êtes pas satisfait de la série, ce n'est pas de leur faute, il faut venir me voir, moi. OK? Donc, voilà un peu mes sources. Et puis, dès maintenant, je vous montre le texte de ce matin. Éphésiens 5, versets 25 à 28. On va y arriver un peu indirectement, mais c'est quand même le texte de la parole de Dieu qui est derrière ce que je vais dire. Alors, je dis une courte prière à nouveau et ensuite on va lire. Ô Seigneur, ouvre les oreilles de notre cœur. Par ton Saint-Esprit, parle-nous ce matin et donne une parole d'espérance pour chaque personne qui est ici. On a besoin que ce soit toi qui parles, Seigneur, et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aimerait lire à voix haute le texte projeté? Est-ce quelqu'un qui est... Oui, c'est ça. Donc, il faudrait se lever et puis lire à voix haute le texte. Quelqu'un qui se sent à l'aise? Oui, après... Es-tu capable de voir, José? Alors... Amen. Merci beaucoup, José. Alors, mon sermon s'intitule « L'amitié, le secret du mariage chrétien ». Bien avant que je lise là-dessus et que je découvre le secret, eh bien, ce secret, il se manifestait autour de moi dans plusieurs beaux mariages, mais je ne le voyais pas. Je ne le comprenais pas. En fait, pour une partie importante de ma vie adulte, et particulièrement lorsque j'étais croyant et célibataire, à la recherche, vous comprenez de quoi je parle, j'étais aveuglé à cause des principes de ce monde qui régissent les relations amoureuses et qui déterminaient mes actions et mes choix dans le domaine. J'étais habité par des principes appris dans ma famille et dans la culture qui m'envahit et qui m'habite dès ma jeunesse. Puis un jour, j'ai vécu une expérience qui m'a donné un choc et qui m'a réveillé à la vérité radicale de Dieu dans ce domaine de l'amour et du mariage. Lorsque j'étudiais la théologie au séminaire en France, Dieu m'avait donné un bon cercle d'amis chrétiens qui étudiaient avec moi. Donc, des jeunes chrétiens engagés dans la jeune vingtaine et la moins jeune vingtaine. Et je me trouvais dans ce cercle d'hommes et de femmes, une belle communauté d'amitié, de jeunes adultes. Et dans ce groupe, j'étais à ma façon à la recherche. À la chasse, qu'on dit des fois, hein, de l'âme sœur parmi les filles célibataires du milieu, comme plusieurs autres d'ailleurs. Je n'étais pas le seul. Et un de ces autres se nommait Alfonso. Alfonso et moi, on étudiait ensemble au séminaire et on est devenus des amis. Alfonso, c'est pas son vrai nom. J'ai échangé pour protéger les innocents. Mais l'histoire est vraie. Alfonso, lui, venait du sud de la France. Et comme son prénom l'indique, il était bien français, mais en même temps de famille espagnole. Alfonso était d'assez courte taille, peut-être même un petit peu plus court que moi. Donc, pas mal court. Mais Alfonso plaisait beaucoup aux femmes. Il était très masculin, foncé de chevelure et des yeux, avec un physique athlétique, un peu comme un toréador, et charmant et chaleureux par sa culture méditerranéenne. Alors, moi, j'aimais bien Alfonso comme ami, mais vous pouvez imaginer que c'était pas facile pour moi de compétitionner avec lui dans le domaine du charme. Oui, c'est ça. Alors, de mon côté, alors parmi les filles avec qui j'avais du succès, il y avait une fille qui s'appelait Barbara. C'est pas son vrai nom, puis c'est pas Cheryl. OK. Barbara faisait partie de notre cercle de bons amis. En passant, Cheryl, elle était aux États-Unis à l'époque. Et je l'avais déjà rencontrée. Ça, c'est une autre histoire que je vais raconter une autre fois. Mais il y avait Barbara. Barbara, elle venait d'Angleterre. Elle connaissait bien le français. C'était une chrétienne mûre, engagée, sérieuse. Elle était plus âgée qu'Alfonso et moi, et déjà plus concentrée et sérieuse sur les défis de la vie adulte, y compris le défi de se trouver un bon conjoint chrétien, qui est souvent, il faut l'avouer, il faut le dire, c'est souvent plus difficile pour une fille qu'un homme de trouver, en tout cas en Occident, Et dans beaucoup d'endroits. Mais elle prenait ce défi très au sérieux. Elle avait un appel au monde francophone. Elle était venue à ce séminaire à Paris, en partie, je pense, pour se trouver un mari pasteur. Et Barbara, elle s'intéressait à moi, et mes amis m'encourageaient à faire de même envers elle, mais elle a compris que moi, je n'étais pas intéressé. C'est vrai. Bien que je m'entendais très bien avec elle, j'appréciais son amitié, sa maturité, sa profondeur. Barbara n'était pas dans mon genre, hein? Des expressions qu'on connaît. Et son visage n'était pas dans le style que je recherchais. Son apparence n'était pas à mon goût, comme on dit ici. Sa famille n'était pas dans le même style de famille que ma famille. Sa culture était très différente de la mienne. Et je disais à l'époque, et puis j'arrive plus à comprendre ce que ça veut dire, mais je disais à l'époque, elle est trop chrétienne à mon goût. Alors, je me cherchais une chrétienne, mais pas trop chrétienne. Et je ne sais plus ce que ça veut dire. Bon. Mais une chose est sûre, elle ne provoquait pas en moi des sentiments de romance ou de passion qui étaient pour moi une condition de départ essentielle. Il me semble que c'est ce qu'on avait toujours compris et vécu. J'ai une photo de Barbara aussi. Non, c'est exagéré. Attendez. Oui, non, ça c'est plus réaliste. Voilà, Barbara. Un jour, quelqu'un frappe à ma porte au foyer étudiant. J'ouvre, c'est Barbara. Je la fais entrer et puis elle est suivie par quelqu'un de petit que je ne voyais pas. Alfonso est avec elle. Je l'ai fait entrer. On jase. Je ne sais pas trop pourquoi ils sont là. À un moment donné, Alfonso, il prend la parole et il dit, « Marc, on a quelque chose à t'annoncer. » Eh bien, on a passé du temps en prière ensemble, tous les deux, en discussion, et le Seigneur nous a montré qu'il veut qu'on regarde ensemble la possibilité de regarder un avenir ensemble, devenir un couple. Alors, moi, j'étais complètement dans le choc. Je les ai regardés tous les deux, Alfonso, Barbara, et je me disais, « Qu'est-ce que vous faites, Alfonso? » Qu'est-ce que tu es en train de faire? Barbara, est-ce que tu sais dans quoi tu t'embarques avec ce toréador? Est-ce que vous vous rendez compte que vous brisez tous les règlements de l'amour? Aïe, aïe, aïe. Eh bien, oui, ils sont devenus un couple. Et Dieu m'a fortement parlé à travers ce choc. Ils se sont engagés, ils sont devenus un couple pastoral dans le milieu difficile de la France. Et ils ont découvert qu'ils avaient une même passion pour Jésus-Christ et son œuvre. dans le monde et surtout un même intérêt pour le travail que Dieu faisait dans la vie de l'un et de l'autre. Et c'est ça surtout, je pense, qui a fait d'eux un très beau couple à la longue. Et Dieu a commencé à me montrer à moi le secret biblique que je ne comprenais pas. Les principes qui régissent les choix romantiques établis par le monde, bafoués par ces deux jeunes fous pour Jésus, eh bien, ont commencé à faire leur travail à l'intérieur de moi et m'ont préparé pour être prêt à voir la providence de Dieu, la belle providence de Dieu qui était inscrite dans la personne de Cheryl, et, mais que j'ai compris seulement 5 ou 6 années plus tard. Et sans ce choc que Dieu m'a donné, j'aurais peut-être pas été capable de voir. Alors, écoutez, c'est quoi le secret? Le secret, c'est que le mariage, c'est avant tout une extension de ma vie avec Christ. C'est pas un domaine à part, mais c'est une extension de ma vie avec Christ, ma vie qui a déjà commencé dans l'Église. Le mariage, c'est une façon parmi d'autres façons de vivre la vie avec Christ et avec d'autres chrétiens dans le peuple de Dieu. Le mariage, pour la chrétienne et le chrétien, c'est d'amener dans sa propre maison et dans sa propre intimité la vie en communauté qui est déjà dans la famille de Dieu. Cette vie à travers laquelle Dieu me transforme à l'image de Christ à travers d'autres personnes. Autrement dit, à travers une relation privilégiée avec une sœur en Christ qui voit le travail que Christ est en train de faire en moi, et moi, je vois en elle le travail que Dieu fait pour elle et en elle, nous décidons de cheminer ensemble, côte à côte. À la base, on est deux amis chrétiens à qui Dieu a vraiment parlé fortement. Tu vois ce gars que j'ai appelé à devenir comme moi? Je veux que tu fasses partie d'une manière toute spéciale de ce travail que je suis en train de faire. Tu vois cette fille que j'ai appelée à devenir comme Jésus, comme mon fils? Je veux que tu fasses partie d'une manière toute spéciale de ce processus. Le secret, je l'ai formulé ici, le secret du mariage chrétien réussi, oui, c'est deux bons amis en Christ qui se complètent dans leur masculinité et féminité pour s'accompagner mutuellement comme frères et sœurs dans leur croissance en Christ. Amen.
Amen.
Amen. Oui. Pour affirmer ça, je ne me base pas juste sur Alfonso et Barbara, mais aussi sur notre texte de ce matin. Dans le texte qu'on a lu, l'apôtre Paul est en train d'enseigner à une communauté chrétienne et met les bases sur tous les rapports entre chrétiens dans la communauté. Et dans ce cadre, il arrive au couple marié, au foyer, et c'est là qu'il dit au mari spécifiquement, le passage qu'on a vu. Ce n'est pas juste une comparaison entre deux grands amours. Jésus a beaucoup aimé l'Église, donc Marie, aimez vos femmes. C'est plus que ça. C'est Paul nous fait entrer dans toute la théologie de ce qu'il est en train de faire en Christ dans l'Église et dans chacun de nous, nous préparer pour le jour où on va le rencontrer. Et donc, ce qu'il demande au mari ici, c'est pas juste d'imiter, mais d'arrimer le but de Christ avec son propre but d'amour dans le couple. Oui, Christ est en train de purifier, de sculpter cette sœur qui est ta femme. Il avait même commencé ce travail avant votre mariage. il la prépare pour qu'elle paraisse devant lui, comme c'est décrit ici. Eh bien, toi, son mari, sois saisi dans ton cœur par ce même travail. Entre dans ce travail de Dieu et deviens amoureux de ta femme. Deviens amoureux de ta femme, pas de la femme qu'elle était autrefois, pas d'une image sociale de ta femme, selon ce que le monde dit, mais deviens amoureux aussi de cette femme que Jésus est en train de purifier, de sculpter. Relisons le texte. Oui, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Et à la fin, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. On comprend ici que si ça s'applique au mari, logiquement aussi, ça s'applique aussi à la femme. C'est vrai qu'il y a un accent différent dans Éphésiens. Paul va insister sur la question « Femme, soumettez-vous », mais au fond, dans le contexte où Paul dit à tout le monde de se soumettre les uns aux autres, la soumission, c'est une forme d'amour. Ça s'inscrit dans quelque chose de profond qui est d'aimer ton mari. Aime ton mari comme Christ l'aime et deviens cet instrument de Dieu dans sa vie. Parce que le mari, il est aussi l'épouse de Christ, comprenez-moi bien. Moi aussi, je suis une épouse parce que je fais partie de l'épouse qui est en train d'être purifiée. À ce niveau-là, homme-femme, on est pareil. Alors, il y a des conséquences importantes découlant de ce que je viens de dire. Ça veut dire que la priorité de la passion amoureuse comme point de départ nécessaire, c'est qui est tellement important dans l'Occident moderne, devient relativisé. Bien que ça va être important dans le cheminement de beaucoup de couples, ce n'est pas en fait essentiel. Peut-être que je dis quelque chose qui choque, mais j'ose le dire, au nom de la parole de Dieu, ce n'est pas essentiel. Même si un mariage est causé à la base par un coup de foudre d'amour, ça peut se passer autrement dans d'autres cas. Et Cheryl et moi, ça s'est passé autrement. Je vous raconterai une autre fois. Mais des fois même, il y a des couples qui commencent dans l'amour fou, selon les critères du monde moderne, et ça peut finir très mal. Puis il y a des raisons à ça. Parce que l'amour passionné, qui est peut-être là au début, et peut-être pas dans certains cas, mais de toute façon va céder la place à un autre type d'amour beaucoup plus profond qui peut avoir sa passion dedans aussi, mais qui est relié au secret dont je parle, qui est de tomber en amour avec la personne que Dieu est en train de créer à côté de nous. J'ai aussi appris que dans le monde des enfants de Dieu, il y a des choses qui sont inversées parfois par rapport à ce que le monde dit. Moi, je me souviendrai toujours d'une conversation avec une femme missionnaire que j'ai eue. Et elle était dans un beau mariage de chrétiens engagés qui grandissaient en Christ. Et elle m'avait parlé de comment elle avait rencontré son mari. Elle a dit au début, quand mon mari commençait à me cruiser, donc c'est comme à l'inviter dans la fréquentation, d'une manière bien chrétienne, j'imagine, c'était sa passion pour Dieu et sa vision de son appel qui m'attirait dans cette amitié. Je ne ressentais pas à l'époque d'amour passionné ou d'amour romantique pour cet homme. Mais il y avait quelque chose d'autre qui m'attirait. Puis elle a ajouté, tu sais, moi, je suis une femme. Et puis, lui, c'est un homme. Et puis, avec le temps, c'est venu. C'est venu. Ça, ça m'est toujours resté. Alors, ça ne veut pas dire que la passion, ce n'est pas important. Ça ne veut pas dire que l'attraction physique, ce n'est pas important, que les critères sociaux, peut-être que vous venez d'une culture où ce n'est pas tellement ton attraction qui fait qu'on t'encourage à épouser telle femme ou tel homme, mais c'est peut-être la compatibilité des familles. Il y a des cultures où ça, c'est très important. Et les parents jouent un rôle important, mais là aussi, ça, ce n'est pas essentiel non plus. C'est un élément, mais ce qui compte, c'est est-ce que tu es capable de voir ce que Christ veut faire dans la vie de l'autre? Puis, est-ce que ça te passionne? Et puis, c'est là que cet autre amour peut embarquer et se développer et grandir et amener une relation durable. Donc, ce matin, moi, je ne veux pas commencer à parler de la mise en pratique du secret. Je veux juste vous parler du secret. Puis, la prochaine fois, on va parler plus pratique. Mais déjà, le secret qu'on a dit, donc, que à la base du mariage chrétien, deux amis en Jésus-Christ, un frère, une sœur, passionnés pour ce que Christ fait. Eh bien, je veux que ça te donne de l'espoir aujourd'hui. Si tu es marié et que tu es insatisfait du mariage, de ton mariage, il y a de l'espérance pour toi aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Parce que même si tu ne le vois pas, Dieu y est à l'œuvre dans la vie de ton conjoint, de ta conjointe. Et sache que ta vraie joie va venir alors que tu découvres ce que Dieu est en train de faire dans sa vie et comment tu peux mieux y participer. Parfois, dans certains cas, puis moi, ça m'est arrivé, j'ai eu de la joie à découvrir qu'il faut que je me tasse. C'est le Seigneur qui me dit, « Marc, toi, tu essaies de sanctifier Cheryl, mais ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est d'être mon instrument, alors que moi, je sanctifie Cheryl. » Tasse-toi, puis regarde, puis prie. Et peut-être que pour quelqu'un, aujourd'hui, tu as besoin d'entendre ça, mais il y a de l'espoir pour toi, qui que tu es, si ton mariage est difficile maintenant, puis sache que ma prière est avec toi. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que ça peut être des souffrances vraiment dures. Et je pense que pas mal tout le monde marié peuvent passer par des moments comme ça. Si tu es une personne seule et que tu es à la recherche du mariage, eh bien, il y a de l'espoir pour toi aussi. Dieu veut te donner la grâce de cela, mais avant, Dieu veut te donner la grâce, je crois, de rencontrer des personnes du sexe opposé qui sont célibataires et puis que tu vas vraiment t'intéresser à ce que Christ est en train de faire en eux, puis eux vont s'intéresser à ce que Christ fait en toi. Puis je dirais que l'amitié chrétienne, je vous encourage à aller dans ce domaine-là. Qu'est-ce que Christ est en train de faire dans ta vie? Comment est-ce que je peux prier? Et puis, parmi ses amis du sexe opposé, Dieu, il peut te donner une personne où le mariage peut devenir une belle possibilité. C'est vraiment une belle grâce. Et je sais que c'est... Peut-être tu te dis, waouh, c'est difficile à trouver. Commence par rechercher de telles amitiés. Peut-être déjà dans le petit groupe de jeunes adultes de l'Église qui, je pense, va essayer de se relancer. Ce que je dis aux jeunes adultes aujourd'hui, commencez juste par l'amitié, OK? Je pense que, oui, on fait l'erreur d'aller trop vite à chercher l'âme sœur et on se contente de quelque chose où et qui n'est pas ce que Dieu... non, je ne devrais pas dire ce que Dieu veut, parce que Dieu peut faire un miracle avec un mariage qui commence mal. Ça arrive souvent. Et il y a de l'espoir pour ça aussi. Mais pour ceux qui sont célibataires, qu'est-ce que j'essayais de dire? Que c'est ça. En tout cas, venez à la réunion de cet après-midi et on va parler des jeunes adultes. Oui, oui, ce que je disais, c'est que se contenter de quelqu'un qui n'est pas chrétien ou de quelqu'un qui est juste chrétien de par son appartenance de groupe social, eh bien, ça, c'est peut-être pas quelqu'un qui est capable d'apprécier ce que Christ est en train de faire dans ta vie et où Christ veut t'emmener. Puis c'est ça que tu veux. J'espère que je n'ai pas fait peur aux jeunes adultes puis ils ne viendront pas à la réunion de cet après-midi. Puis finalement, si tu es une personne seule et que le mariage n'est pas une possibilité pour toi à ce stade de ta vie, pour telle ou telle raison, il y a beaucoup d'espoir pour toi aussi, parce que, comme j'ai dit au début, le mariage, c'est une extension de ce que tu as déjà reçu en Christ, c'est-à-dire une fraternité de sœurs et de frères qui cheminent avec toi dans ta sanctification, dans ce que Christ est en train de faire dans ta vie, puis toi, tu chemines avec eux de la même manière. Ça n'a pas besoin d'être dans le mariage. Et puis, si ce n'est pas possible pour toi maintenant, bien, ça ne sera pas dans le mariage, mais tu peux quand même le vivre et tu peux jouer un rôle à développer de telles amitiés dans l'Église. OK, donc, on va terminer maintenant et je voudrais simplement terminer en rappelant le secret. Le mariage chrétien réussi, deux bons amis en Christ qui se complètent dans leur masculinité et leur féminité pour s'accompagner mutuellement comme frères et sœurs dans leur croissance en Christ. Amen.